Bonjour, on est sur Ligue FM 93.1. Dans la vie est un roman. Je suis avec Chloé Mons et nous sommes sur la terrasse d'un bistrot. On enregistre l'émission à l'avance. Donc si vous entendez un peu de bruit, c'est ça. Et Chloé vient de un livre qui va sortir en librairie aujourd'hui même, je crois, qui s'appelle Jachère, portrait en mouvement et qui paraît aux éditions Mediapop. Bonjour Chloé.
Bonjour Yves.
Et donc, Jachère est un livre dans lequel tu racontes en gros ta vie.
Une période de vie. Mais c'est vrai que du coup, je raconte beaucoup de choses, oui. Ça s'appelle Jachère parce que ça se base quand même sur ces 11 dernières années entre le décès de mon mari et aujourd'hui. Et cette nouvelle quête de l'amour, que voilà, rechercher l'amour, pourquoi c'est rare, comment c'est rare, et toutes les aventures, tout ce qu'on peut vivre quand on est dans cette quête et dans une grande ville et voilà.
Et donc, si tu permets, on peut recommencer par la chronologie. Tu es née, parce que tu le racontes aussi dans le livre.
Oui, oui, du coup, effectivement, je fais un peu le tour de qui je suis, parce que je me pose plein de questions. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi est-ce que ça n'arrivera plus? Est-ce que tout ça? Alors, je suis née à Lille.
Ouais. Tu avais des parents très ouverts.
Très ouverts. Très sympathiques, très fous. Ils sont toujours là et ils sont toujours aussi sympathiques et fous. Ouais.
Et tu as un frangin, qui a un groupe de rock psychédélique.
Absolument, j'ai un frère qui fait du rock, qui écrit aussi, qui fait des expos, qui fait plein de choses. Ouais.
Et donc, ta première rencontre amoureuse, tu as 15 ans et ça se passe en Inde.
Ouais.
Et parce que ton père a un lien assez fort avec l'Inde, dis-tu?
Oui.
Quelle est la nature de ce lien?
Ben, mon père est allé très tôt en Inde pour le yoga. En fait, il a découvert le yoga. Et donc, il avait son maître à Mysore qui s'appelle Pathabi Joyce, qui est un des grands maîtres indiens, hein, qui est décédé maintenant. Et c'est vrai que mon père, ça a été un des premiers à importer le yoga ici, l'Ashtanga. Et donc tous les ans, il est allé en Inde, mais je sais pas, ça fait 50 ans, hein, donc c'est 50 ans d'Inde. Et moi, j'y suis allée aussi dès petite, et ça fait partie de notre vie familiale, vraiment, quoi. Et moi, encore maintenant, je vais en Inde. Bon, là, en ce moment, on est bloqué, on peut plus prendre l'avion, mais je continue à aller en Inde dès que je peux, c'est très important pour moi.
Et c'est amusant, donc quand t'es en Inde, t'es comme chez toi.
Exactement. Ouais, ça fait partie de ma planète, vraiment.
Et ta première aventure amoureuse, comment ça va? Tu as 15 ans et tu rencontres un photographe qui a 30 ans de plus que toi.
33 ans de plus que moi, ouais. Oui, oui, alors oui, c'est incroyable. C'est une rencontre karmique un peu avec Tom, effectivement, qui déboule dans ma vie comme ça, à Mysore.
Et lui, t'envoie une à deux lettres par jour.
Ah oui, on a une correspondance. Alors, non, à 15 ans, on a un lien très fort. Enfin, il y a quelque chose qui se passe très très fort entre nous. On fait des photos, mais on passe pas à la case supérieure, à la vitesse supérieure. On n'est pas encore dans l'histoire d'amour. Sauf que c'est... Moi je sens bien qu'il se passe quelque chose de très très fort avec cet homme. Mais... j'ai jamais fait l'amour, je ne sais pas comment ça se passe. Bon, donc je sais pas très bien identifier ce truc-là, mais je sens bien qu'il y a une grande attirance, qu'il y a quelque chose de très flou, de très tentant, voilà, ça je sens. Et il attend quelques années, que je sois majeure en fait, hein, pour qu'on passe à l'acte. Et là, c'est vrai qu'on a eu une correspondance complètement passionnée, extraordinaire, et une histoire folle. Enfin, une passion dévorante. Ouais.
Et donc, il te prend en photo nue dans des endroits
partout. Partout, je me déshabillais partout, on faisait des photos partout. D'ailleurs, c'est des photos extraordinaires, hein. Vraiment, c'est une œuvre très forte, très belle. Et voilà, on s'est beaucoup, beaucoup amusé. Et puis beaucoup de voyages, parce qu'il habitait à Hawaï, donc moi j'étais beaucoup à Hawaï, c'était fou, hein. C'était une histoire dingue.
Et donc tu dis oui, que c'était érotico-addictif.
Complètement. Et puis il m'a tout appris, à ce niveau-là. C'était super. Oui.
Et donc, à un moment donné, tu as, je sais pas, à 18 ans, et tu lui dis, ou à 20 ans, enfin, tu lui dis, on pourrait vivre ensemble.
Oui, c'est ça.
Et il dit, non.
On
a eu une belle histoire d'amour, mais tu vas pas devenir ma femme.
Bah, il me dit pas on a eu une belle histoire d'amour. Il dit on a une belle histoire d'amour et ça va continuer comme ça. C'est ça l'histoire. S'il m'avait dit on a eu une belle histoire d'amour,
raison,
bon c'est fair play, ok, notre temps est fini. Mais là c'est pas ça. On a une belle histoire d'amour, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il n'est pas question de changer les règles. Sauf que moi je vis à Lille, lui il vit à Hawaï. Quand même un peu compliqué tout ça, et puis ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et puis il est temps. Moi j'ai terminé la fac, j'ai terminé mon conservatoire de théâtre à Lille, donc soit je pars à Paris, soit je pars à Los Angeles, pourquoi pas, tout me va, mais il faut faire quelque chose ensemble. Et là il me dit effectivement non, bah non, on reste comme ça quoi. Alors je lui dis au revoir.
C'est un petit peu le fil conducteur du livre, comme je l'ai compris en fait, et c'est récurrent, donc ça revient tout le temps. Dès que tu as une aventure avec un homme et dès que tu lui proposes quelque chose d'un peu plus sérieux ou de jouer la partie, tout ça, le type refuse et tu le jettes.
Bah oui.
C'est ce qui va revenir.
Ah oui, c'est revenu souvent.
Tu dis il préfère la conquête à l'amour.
Absolument. Pas tous, mais bien sûr.
Mais bien sûr. Bachung,
et puis, c'est marrant, mais au moment où ça sort. J'ai rencontré mon cavalier blanc, donc vous voyez, c'est assez beau que l'art soit performatif parce que je l'attendais et une fois que je l'ai fini, ben, je l'ai rencontré.
Tu vas écrire un deuxième tome alors.
Je sais pas, il y aura peut-être plus rien à raconter puisque
aussi,
ce sera, que
bien,
doux et que bien. Donc pour l'instant,
pour
l'instant, j'ai vraiment pas besoin d'écrire là-dessus. Mais en tout cas, effectivement, j'ai beaucoup buté sur ce schéma-là. Des hommes qui en fait n'avaient pas envie d'être profondément bousculés. Ils l'étaient par moi, ils l'étaient parce qu'on vivait, mais ils n'avaient pas envie de changer leur vie pour ça.
De sortir de leur zone de confort.
Oui, c'est ça. Et en même temps, ils n'avaient pas envie de lâcher l'histoire. C'est toujours moi qui les quittais. Sinon, ça pouvait durer toute la vie comme ça. C'est ça qui me sidérait, et c'est beaucoup de sidération de ça dans ce livre.
C'est un petit peu le motif récurrent du livre.
Ouais, ouais.
Les hommes petits joueurs. Et il y a une autre chose sur laquelle il faut insister, je pense. Donc quand tu quittes cet homme, pendant 3 ans, tu vas rester...
chaste.
Abstinente.
Ouais, abstinente.
Chaste, c'est autre chose.
abstinente, en tout cas. Ouais.
C'est ça que je voulais dire. Tu es une grosse bosseuse, tu es une lefto.
Ouais.
Tu es une grosse bosseuse, tu vas en fac.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu fais en fac ?
En fac, je faisais une fac de cinéma. Donc, je voyais des films.
2 à 5 films par jour.
Ouais, c'est ça. Et puis, j'écrivais sur les films.
Théâtre ?
Je faisais du théâtre. À Paris, je faisais pas vraiment de théâtre. J'avais fini le conservatoire. Non, je passais des castings, des choses comme ça. Voilà. Mais pendant 3 ans, vraiment après Tom, j'ai vraiment vu des films, réfléchi sur le cinéma, écrit cinéma, je faisais ça quoi.
Et alors le conservatoire, tu as fait donc d'art dramatique à Lille.
Ouais.
Et tu vas jouer au cinéma,
Voilà, je joue au cinéma, en ce moment je fais beaucoup de théâtre. Donc voilà, ça revient dans ma vie. Enfin, depuis quelques années déjà, je refais beaucoup de théâtre. Mais effectivement, quand je viens à Paris, que je fais cette fac de cinéma, je joue plutôt au cinéma, ouais, de petits rôles par-ci par-là. Ouais.
Et donc, pour revenir un peu en arrière, tu as un rapport très fort avec ton père quand tu es jeune.
Ouais,
Tu laisses rien à ton frère, en fait, c'est ce que tu écris. Et ta mère est assez jalouse du rapport que tu as avec ton père, et tu comprends qu'il ne faut pas que tu en fasses trop, que tu sois extrêmement positive. Tu es quelqu'un de très positif.
Ah oui, ça m'a construit cette position. De toute manière, on est tous construits par nos positions familiales, par les bagages qu'on a à la naissance. Hein. Mais le mien, c'est ça. Oui, effectivement, le message subliminal dans tout ça, c'était fais pas de vagues, be happy. Et ceci dit, je l'ai remercié parce que c'est super, j'ai une nature comme ça. Effectivement, je suis plutôt une fille très positive, très enthousiaste et avec beaucoup d'énergie.
Qui s'adapte bien à toutes les situations.
À toutes les situations. Et ça, c'est vrai que c'est un cadeau pour la vie. Hein. C'est super. Mais c'est pas toujours simple, forcément.
Et donc, après ces 3 ans d'abstinence, qu'est-ce qui se passe?
Alors, après ces 3 ans d'abstinence, oui, j'ai 2 amants, je crois, j'en parle d'ailleurs. Aucun intérêt. Enfin, je remets la machine en route, comme on dit. Et puis je rencontre Alain. Tout de suite, je rencontre Alain, en fait. C'est marrant, c'est vraiment le grand tournant, quoi.
Et donc, ce que tu dis, c'est qu'il était pot-au-feu, extrêmement humain.
Ah, c'était un homme à l'ancienne. Hein. Ah oui, c'était vraiment un homme à l'ancienne, très, très doux, très... lui aussi, c'était quelqu'un qui était attaché aux vraies choses. Donc l'amour, la vraie rencontre amoureuse, voilà, ça résonnait pour lui comme pour moi. C'était un vrai romantique, en fait, un grand romantique. Et puis, aimant effectivement le foyer, la douceur, la chaleur, loin des clichés qu'on peut imaginer, vraiment. Quelqu'un de très rassurant, très rassurant, très présent, très constant.
Le rock'n'roll destroy
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Très constant, au contraire. Très. Non. Alain ne sortait jamais. Il sortait comme pour travailler. Mais sinon, c'était à la maison.
Tu racontes qu'il, des fois, il te réveillait à 4 h du matin pour aller manger des huîtres.
Oui. Ça nous est arrivé plein de fois, ouais. Ah oui. Alors, par contre, c'était quelqu'un qui se couchait pas forcément tôt, qui se levait pas forcément tôt non plus. Mais il restait beaucoup à la maison. Et la nuit, il regardait des films, etc. Et c'est vrai que quelquefois, il avait des pulsions et il me réveillait. Il me disait, allez, vas-y, fais-toi belle, maquille-toi. Il aimait bien ça. Et puis, on partait dans la nuit manger des huîtres et tout. C'était fête. C'était chouette.
Et donc, vous allez bosser ensemble aussi. Vous allez faire, par exemple, le Cantique des Cantiques avec Adam Berger.
Absolument. Disons qu'avec Alain, l'idée, c'était de tout faire ensemble. Voilà, c'était là aussi, c'est une belle idée romantique et c'est magnifique à vivre quand on peut le vivre. C'est assez rare de pouvoir vivre ça. C'est fantastique. Donc voilà, puisqu'on est bien en amour et qu'on aime nos boulots, autant rassembler tout ça et plus quitter, quoi. Et même quand notre fille est née, on l'a emmenée partout et c'était vraiment la caravane. Et c'était génial. Et effectivement, travailler ensemble, ça tombait sous le sens. Moi, j'ai toujours écrit, j'ai toujours été dans la musique aussi. J'étais danseuse dans le groupe de mon frère. Après, j'ai chanté mes trucs. Tout ça, c'était sur ma planète aussi. Et donc, voilà, ça s'est fait naturellement. Après, le Cantique, c'était le mariage.
Vas-y, raconte ça.
Ouais, donc voilà. Donc, quand on a décidé de se marier... on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait à l'église, pas à l'église. Bon, alors, l'église, c'était compliqué. Moi, je suis pas baptisée. Alain a été divorcé 2 fois. On est athées tous les deux. Ça n'a aucun sens. Par contre, lui comme moi, on est des mystiques. Des vrais mystiques. Voilà. Justement, on croit en l'amour, on croit au ciel. Presque des animistes. Bon, vraiment, il y a un truc comme ça qu'on avait en commun. Donc on s'est dit, on aimerait bien faire quelque chose avec le sacré quand même. La mairie, ça nous semblait un peu creux, un peu factuel, un peu triste. Donc on est allé voir le curé du village d'Audingan. À Audingan, c'est dans le nord, sur la côte d'Opale, où mes parents ont une ferme. Et le père Gabriel, qui est décédé maintenant, qui était un homme charmant et très ouvert... Et on lui a expliqué, voilà, tout ça, qu'on était athées, mais qu'on croyait en plein de choses, et tatatatata. Et il nous a dit, écoutez, je peux rien faire d'officiel, mais je comprends très bien votre lien à la foi, c'est une certaine foi aussi. Et je vous accueille avec grand plaisir dans mon église. Réfléchissez à ce que vous voulez faire. Et voilà, on s'est posé des questions. Et puis le Cantique des Cantiques, bon, c'est un classique des mariages, hein, c'est pas très original. Sauf que... Olivier Cadio venait d'en refaire une traduction et puis du coup ça s'est mis en place tout simplement. On a fait une maquette chez Rodolphe et on l'a fait en live au mariage devant nos invités en larmes. C'était très beau. Et après c'est devenu un disque. Quand on l'a réécouté à la fin de la nuit blanche, on avait fait la fête, etc. Puis on a mis ça après les tubes, on a mis le Cantique des Cantiques de l'après-midi.
Ça fait quoi, 27 minutes?
Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, on s'est dit, putain, mais il faut le sortir, c'est trop beau. Et voilà, c'est devenu un peu culte, quoi. Du coup, on l'a sorti.
Et donc, pour revenir à tes études de cinéma, tu es fan de Godard et tu envoies toutes tes productions à Godard chaque fois que tu fais quelque chose.
Ouais, toujours.
Et donc, lui va citer dans un de ses films le Cantique des Cantiques.
Ouais. Ouais, ouais. C'est marrant. C'est... Enfin, moi, c'est des liens invisibles qui me touchent beaucoup. Qui sont très, très godardiens, d'ailleurs.
C'est quel film ?
C'est dans du socialisme. Ouais. Et j'aime beaucoup ces petites histoires-là. Voilà, c'est des histoires.
Tu dis qu'Anne-Marie Miéville était avec vous. Vous l'avez vue une fois au bistrot, qu'Anne-Marie Miéville est venue parler.
Oui, oui, absolument. Elle est venue nous parler, nous dire qu'ils adoraient le Cantique des Cantiques, que c'était vraiment un disque qu'ils écoutaient souvent et tout. Ce qui nous a beaucoup, beaucoup touchés. Hein. Mais c'était marrant parce que au fond du café, il y avait Godard et moi j'étais avec Alain et c'était vraiment les deux ours mal léchés qui n'arrivaient pas à s'exprimer. Puis nous, les femmes, on discutait et puis c'était très marrant. C'était une scène très marrante.
Et donc, oui. Tu mets des. Tu utilises un langage météorologique, on peut dire ça, pour les chapitres. C'est quoi la signification ?
C'est un livre comme ça de fragments. Donc je cherchais aussi quelque chose pour relier tout ça dans la forme. Vraiment là, je parle d'une façon de forme littéraire, quoi. Et comme c'est un peu à chaque chapitre, même si quelquefois un chapitre fait qu'une page, mais c'est un peu des billets d'humeur comme ça, je me suis dit c'est un peu une météorologie de ce que je suis, quoi. C'est ma météo, quoi. Donc voilà, j'ai pris des termes météorologiques. Et puis ça parle bien de la vie, hein, la météo, les tempêtes, les rafales. Le vent, les accalmies, en fait, tout est météo. Donc voilà.
Oui, donc il y a peut-être aussi, je pense, le contraste entre l'Europe et l'Inde dans ce rapport. Parce que là, j'ouvre au hasard le livre, je tombe sur Mousson. Mm-hmm. Donc c'est une catégorie qui n'a pas beaucoup de sens ici.
Alors là, c'est parce que je parle de l'Afrique, je pense. Ouais. C'est le passage en Afrique.
En Afrique, oui.
Ouais.
Et donc là, tu pars en Afrique, en Casamance, avec un Africain qui est lié à la musique.
Ouais, qui faisait de la musique, ouais.
Et vous avez une belle histoire.
Très belle histoire.
Qui est très physique.
Très physique. Très physique. Ouais, très charnelle.
Et puis, quand tu y retournes une fois avec ta fille qui s'appelle Pénélope.
Popé.
Ouais. Popé, merci. Quand tu retournes avec Popé, lui, il est jaloux.
Ouais, ça se passe mal. Ouais, ça se passe mal.
Ça fait peur, quoi.
C'est pas possible.
C'est l'enfermement tout de suite.
C'est pas possible.
C'est le retour à quelque chose de.
L'enfer. Ouais. Je le quitte. Mais enfin, ceci dit, comme je dis à la fin de ce chapitre, j'en garde quand même le bon. Parce que c'est une histoire qui m'a fait du bien. C'est une histoire qui m'a remis en vie, quand même, après la mort d'Alain.
Une autre des récurrences du livre, c'est ta grande ouverture à toutes les pratiques sexuelles. Donc...
Mais oui, je suis pas très j'ai pas de tabou.
Un catalogue des expériences possibles.
Oui, après, je pense que, vu que je vis pas ça seule, donc je me rends bien compte que les gens vivent des choses quand même. Je rencontre beaucoup d'hommes qui ont des pratiques un peu spéciales quand même. Je les pratique pas seule, donc c'est pas forcément moi qui en ai l'idée. Donc je vois que, en fait, c'est vraiment une période d'expérimentation, effectivement. Et j'expérimente plein de choses. Et c'est ça aussi la vie. C'est ça la vie, c'est ça les rencontres. Ouais. Et c'est vrai que je n'ai pas de tabou. C'est vrai que je suis très libre avec mon corps. Je n'ai pas de problème avec ça.
C'est aussi, c'est toujours le même tableau, justement. Il y a une certaine générosité. Tu joues la partie, tout ça. Et c'est ça, quoi.
Oui, c'est ça.
On propose un jeu, tu joues, quoi.
Oui, parce que je le dis très clairement d'ailleurs à un moment donné, mais c'est vrai que si on choisit d'être dans le lit de quelqu'un, c'est quand même pour du plaisir. Enfin, faire l'amour, pour moi, c'est du plaisir. On n'est plus à une époque où on fait l'amour juste pour faire des enfants. Bien au contraire, plus du tout même. Donc, c'est pour du plaisir, le désir, le plaisir. Et ça, c'est infini. Ça peut prendre mille formes. Et effectivement... si l'autre aime telle chose ou telle chose, j'essaie de comprendre comment, pourquoi etc. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir, oui, de goûter, de tester.
Tu écris, j'ai toujours été attirée par les hommes à femmes et eux ont toujours été attirés par moi.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a, c'est vrai que les hommes à femmes, souvent, je suis un peu un trophée à choper, quoi. Donc ça les excite. Et puis souvent, souvent, oui, ils voient très vite que je place les choses à un niveau peut-être plus mystique, effectivement, et élevé que la plupart des gens. Enfin, c'est pas pour me valoriser, mais c'est vrai que j'ai ce truc un peu pur avec l'amour, quoi. Et bizarrement, ça les rend fous, en fait, souvent. Souvent, ça les rend dingues. Et comme c'est une place qu'ils veulent avoir, mais dont ils n'ont pas l'habitude, ça les rend un peu dingues.
Donc, qui c'est qu'on imagine comme ma femme, Marcello,
Mastroianni? Oui, peut-être, oui.
Par exemple.
Oui.
Tu dis quoi, donne-nous une idée de la
femme. De ma femme, oui.
Comme ça, bidon, dans les acteurs.
Dans les acteurs.
Qu'est-ce que c'est un beau mâle?
Qu'est-ce que c'est qu'un beau mâle?
Je sais pas, moi. Un poster dans ta chambre d'adolescent.
Pour moi, un beau mâle, c'est Tony Soprano. Ouais, c'est ça,
très
moi,
viril,
pour moi.
Alors, vraiment bien.
Comment?
Très viril.
Mais voilà, bien. Pour moi, c'est ça.
C'est pas du tout un corps avenant, Soprano.
Non, mais moi, ça me plaît plus que, je sais pas, que Tom Cruise, qui m'a jamais fait aucun effet, vous voyez.
Et alors, tu écris ces hommes qui préfèrent une femme pas trop belle, pas trop brillante, pas trop voyante, pas trop cultivée, pas trop. Surtout pas artiste, créatrice ou sorcière.
C'est vrai? Bah, il suffit de regarder autour de nous. Et moi, je connais beaucoup, beaucoup d'hommes qui ne s'encombrent pas d'une femme ni trop intelligente, ni trop accomplie dans sa vie, ni trop belle. Hein. Le nombre de belles femmes seules, c'est inouï. Hein. C'est fou. Hein. D'ailleurs, dans les bars, vous avez une copine belle et une copine moins belle, c'est la moins belle qui rentre avec quelqu'un, très souvent. Je veux dire, c'est comme ça.
C'est moins intimidant.
Bah bien sûr.
Enfin, je parle de moi.
Bah bien sûr, mais évidemment, il n'y a pas de pression, c'est ce que je dis à l'italien.
Il n'y a pas de concurrence.
Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de pression, donc on est tranquille. Il n'y a pas de challenge, de performance à faire.
Et à un moment donné, tu fréquentes un mec et tu lui dis, on va passer un week-end chez mes parents.
Ouais.
Le mec te dit non,
ouais.
Tu le jettes.
Bah, parce que quand même, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est parce que l'italien, oui, bah, effectivement, je le jette parce que il part en vacances avec une femme qu'il doit quitter. Donc moi je lui dis, comme je le dis, je suis vraiment pas jalouse. Par contre, je suis exclusive. Si on décide de vivre une histoire, on la vit vraiment. Moi, j'ai pas commencé à partager mon homme, quoi. Mais bon, là, on est au début de l'histoire, donc il a besoin de partir en Grèce avec cette femme. C'est un peu rude quand même, on est au début d'une histoire super forte, il part un mois en Grèce avec cette femme, c'est rude. Donc je lui dis ok, mais tu viens dans le nord, je te présente mes parents et tout, ça me fera très plaisir. Hein. Et là, c'est vrai qu'un blocage total, quoi. Blocage total. Bah, à partir du moment où moi j'accepte qu'il parte en Grèce un mois, il peut peut-être accepter de venir. Et là, à partir du moment où ça a bloqué, je me suis dit, il y a un problème et j'ai bien fait. On continue à se voir, c'est un ami hein, maintenant, mais c'est quelqu'un qui a un gros souci avec tout ça. Ça n'aurait pas avancé, ça n'aurait jamais avancé. J'ai gagné du temps.
Alors à propos de ta musique, tu écris « J'ai inventé mon système pour faire rayonner ma musique, ma société de production pour sortir mes albums. 9 albums sans jamais un producteur ou un tourneur, 3 films sur YouTube uniquement, 2 livres. »
Ouais.
Donc tu prends vraiment en charge, quoi. Tu maîtrises.
Bah, j'ai pas le choix, absolument. Mais c'est intéressant d'ailleurs, c'est super. Autant au début c'était une situation un petit peu subie, autant maintenant j'en vois vraiment les bénéfices et... Ouais, c'est une position assez rare et assez extraordinaire. Hein. Je suis totalement libre.
Et donc, tu as fait un film avec Blixa... Ah, pas un film, excuse-moi.
Un disque.
Un disque avec Blixa...
Blixa Bargold.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup Enzo Neubauten.
Neubauten.
Ouais, ouais. J'aime beaucoup le rock industriel.
Bah, alors, c'est un des maîtres de ça. Hein.
Ouais, bien sûr.
Ouais,
il
mec,
tourne après avec Nick Cave, enfin c'est vraiment...
Bah, pendant des années et des années, c'est le guitariste de Nick Cave, ouais.
Fétis, ouais.
Là, ah bah là, c'est un type extraordinaire. Hein. Grande rencontre avec Bixar. Un type extraordinaire. Très intense, très... avec, oui, un lien très fort entre nous. Voilà, comme les taiseux savent le faire, quoi.
Ouais, c'est marrant son truc de taiseux. Alors, j'ai vu un film de lui où il parle avec un... C'est un Israélien qui est suédois maintenant, et c'est sur Arte.
Ah bon ?
C'est assez marrant parce que le mec est un activiste, il a pris une balle. À un moment donné, Gaza était fermé, il était sur un bateau et tout. Mmh. C'est un musicien. Et ils sont très potes. Et,
Mais c'est un film de fiction ?
Non, pas du tout. C'est un documentaire sur le suédois.
Ah.
Mais c'est Blixa qui le fait.
D'accord.
Arte donne une carte blanche à Blixa pour 20 minutes.
D'accord.
Et en fait, ils mangent, ils sont à un repas, ils se parlent, tu vois.
D'accord.
Et tu le vois un peu dans le studio. Et l'Israélien est très spécial, en fait. C'est un anti-sioniste. Tu vois,
d'accord.
C'était une grosse histoire. À un moment donné, ils essayent de baiser le blocus. De... Et bon, c'est assez décalé. Quoi.
D'accord.
Tout ce qu'il fait,
ouais, c'est... Ah bah, ça, décalé. C'est un type décalé. D'ailleurs, le disque qu'on a fait est complètement décalé. C'est... Non, non, c'est un type fantastique. Très intéressant.
Et tu as une copine qui s'appelle Laura, là, dont tu parles.
Ouais.
Deux fois une grande amie. Alors, ça marche comment, les amitiés avec les filles?
Ah, moi, j'ai toujours eu des amis. Alors, Laura, c'est mon amie depuis, je sais pas, 30 ans. Et c'est vrai qu'on se parle tous les jours. Tous les jours, où qu'on soit, quel que soit le pays, le fuseau horaire, on se parle. Donc, voilà, ça, Laura, là, vraiment, on échange des billets d'humeur quotidiens. Voilà, on connaît tout l'une de l'autre. C'est certainement la personne qui me connaît le mieux au monde, je crois. Et puis après, moi, j'ai des amis moins... Enfin, en tout cas, avec moins de contact, parce que ça, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. C'est... Laura, je pourrais dire que Laura est une des grandes histoires de ma vie, puisque vraiment, on se parle tous les jours. Mais sinon, oui, j'ai des amis. Après, j'en ai pas 50, mais j'ai des amis fidèles et je suis, comme en amour, très fidèle. Très fidèle, je garde le lien... Je suis une amie sur qui on peut compter et j'aime pouvoir compter sur mes amis. Mais c'est vrai que j'en ai besoin. J'ai besoin de ça. Ouais.
Il y a aussi une dimension, tu écris, non, l'amour, c'est pas cool, c'est grave, comme la vie et la mort.
Ouais, c'est
parce
vrai.
Que là, on vient de donner une image très positive de toi, mais c'est pas niais, c'est pas non plus baba.
Ah bah pas du tout.
Pas du tout.
Ah bah pas
et
du
c'est
tout.
C'est pas baba du tout.
Ah bah pas du tout. Ah non, pour moi, l'amour,
malgré
c'est...
Malgré ton père, ça
me ouais, c'est ça. Non, au contraire, l'amour, moi, je trouve que c'est une des grandes forces du monde et de la vie, en vrai, hein, sans parler cliché peace and love, mais vraiment, l'amour c'est quelque chose... Non, l'amour c'est très très puissant, et quand on rencontre quelqu'un, moi comme ça m'est arrivé, mais avec tous, mais surtout avec Alain, je dirais, l'homme avec qui je suis actuellement, c'est vraiment des... C'est comme si c'était des rencontres qui étaient prévues depuis le fond des âges, et puis on est propulsé vers quelqu'un. Il y a quelque chose de cosmique, de absolument sidérant, de tomber sur la bonne personne. C'est magnifique. Et c'est pour ça que c'est grave, parce qu'il faut prendre ça au sérieux et il faut respecter ça. Il ne faut pas traiter ça comme avec mépris ou... Voilà, non, je pense que c'est une des grandes choses de la vie. Le reste, c'est de la littérature.
Et donc, il y a des portraits de ces hommes que tu rencontres, et il y a deux qui m'ont bien plu. Par exemple, tu rencontres un type, et il s'avère, quand tu vas chez lui, qu'il a une vie de vieux garçon et qu'il préfère son chien, en fait.
Mais c'est une catastrophe. Mais c'est surtout que j'arrive dans une...
C'est très sale chez lui.
Mais très sale.
Alors
l'homme
est beau, bien habillé, là, on parlait...
Hyper chic, hyper beau, hyper éduqué, hyper... Enfin, tout, quoi. Vous le voyez, vous dites, bon, tout est possible. Et vous arrivez chez cette personne, et là, oui, tout est sale, mais au-delà de ça, là. Et il n'y a même pas de douche, il n'y a rien, quoi. Et enfin, on est dans l'inimaginable, en fait. Dans l'inimaginable, et il vit avec son chien, et effectivement. Enfin, c'est des histoires de vie, mais c'est vrai que. J'arrive avant
BD, là, oui,
oui c'est ça, ça, c'est la BD. Avant et de passer la porte, je me dis oh super, je vais passer la nuit chez lui. Je passe la jambe, mais là je me dis merde, je vais devoir passer à la casserole. Il faut vite que je me tire d'ici. Il faut vite que je rentre à la maison. C'est horrible. je veux rentrer, quoi.
Ouais, parce qu'en plus, on sait que t'es pas chichiteuse, puisque le livre s'ouvre par le fait que tu sois allée en Casamance.
Ah oui, oui.
Sur un matelas, t'es pas la personne.
Ah non, je m'en fiche de ça. Alors, vraiment.
Tout terrain, en fait.
Oui, je suis tout terrain. Et puis même, je dirais qu'un des grands plaisirs de l'existence, c'est l'alternance. Moi j'aime dormir dans la jungle, en Casamance, là dans la forêt, ou à même le sol, parce qu'on a vraiment dormi comme ça. Enfin, c'est des pays où on vit comme ça. Mais j'aime aussi aller dans un 5 étoiles. Hein, mais le 5 étoiles tout le temps me ferait chier. Le sol tout le temps me ferait chier. Mais j'aime bien passer de l'un à l'autre. Et je trouve que c'est ça la vie. Voilà. Après... oui, non, je m'en fous du luxe. Le luxe n'a jamais été un moteur, voilà. C'est plus l'aventure qui m'intéresse, moi.
L'aventure.
C'est l'aventure. L'aventure, la découverte, l'inconnu, voilà, l'expérience, l'expérimentation profonde, ce qu'on va découvrir de soi à travers une situation. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà.
Et donc, dans ces personnages que tu évoques, il y a aussi un musicien au standard.
Ah,
il préfère la coke à la relation qu'il a avec toi. C'est
je préfère la
compris.
Coke à tout, ouais, je crois. Ça. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, un musicien, ouais, un chanteur. Ouais, bah c'est une personne assez exceptionnelle, mais finalement pas tant que ça. Voilà. Bah,
le fait que tu dises que c'est Ostendais, ça nous donne un signal quand même assez fort, mais peut-être je me trompe.
Mais je. Peut-être vous trompez, je ne sais pas. Je dirais rien. Mais bon, c'était une histoire. Il y avait du beau, hein, cette histoire. Je raconte les balades en la campagne. Il y avait beaucoup de fantaisie. L'humour belge est extraordinaire. Hein.
Donc tu ne sais pas, mais je suis belge.
Comment ?
Tu ne sais pas, mais je suis
c'est
belge.
C'est vrai ?
Je suis bruxellois.
Ah oui, bruxellois, d'accord. Hein, donc voilà, l'humour belge, la culture. Moi, je connais bien parce que je suis lilloise, mais.
Ouais, tu allais souvent en Belgique.
Oui, très souvent. Ouais. Ça fait partie de ma vie, la Belgique.
Ma mère est morte à Ostende, par
exemple. Ah,
j'ai un livre là-dessus qui s'appelle Maman.
D'accord, super Ostende. J'ai des fameux souvenirs d'ailleurs avec cet homme-là à Ostende. Fatigant.
Et donc, oui, tu supportes pas les mecs qui veulent te contrôler aussi.
Bah non, disons que c'est marrant des hommes qui sont séduits par ma liberté et puis une fois qu'il y a quelque chose entre nous, ils veulent tout contrôler et en fait ils supportent plus cette liberté. Je pense que ça fait partie des rapports amoureux en général. Hein. Il y a aussi beaucoup de femmes qui tombent amoureuses d'un homme et puis une fois qu'il est là, elles veulent le refaire complètement. J'en ai vu des filles faire ça aussi. Hein. Donc, bah non, c'est insupportable, en fait. Aimer, c'est prendre l'autre comme il est, quoi. Enfin, c'est tout. D'ailleurs, c'est des questions vraiment que je pose dans le livre. C'est ça. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que c'est aimer l'autre? C'est quoi les limites? Ouais, c'est toutes ces interrogations-là. J'ai pas forcément les réponses, mais moi, j'essaie de trouver mes réponses dans mon expérience, quoi. Dans mes histoires.
Tu sors aussi avec un parfumeur, on apprend.
Oh bah lui, il est dingue. Ouais.
C'est un cerf qui brame.
Incroyable, ouais. Incroyable. Oui, avec une correspondance de SMS complètement délirante. Ouais, ouais. Ah oui, c'est fou. C'est fou. Une histoire dingue. Qui m'emmène dans le sombre quand même. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Des choses très sombres.
Et tu as aussi deux chapitres. Des voyages dans le Nord qui ne se passent pas bien.
C'est ça, à la suite du parfumeur, oui, et des voyages dans le Nord épouvantables, hein, où j'ai eu quand même très très peur. Enfin, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on avait tenté de me détruire.
Raconter un peu pour que les gens comprennent.
Oui, bah, y a une soirée où je vais à l'anniversaire d'un ami de mon frère qui était fakir. Et puis en fait, là, on est limite, moi et ma fille, séquestrés, quoi. Séquestrés. J'ai vraiment eu très très peur. Enfin, quand je me suis échappée de là au petit matin avec ma fille, je me suis dit qu'on aurait pu finir comme chez Dutroux, coupé en morceaux. Mais vraiment, vraiment. Enfin, là, on était chez les barges, quoi. Je parle de Harry Cruz, mais c'est vraiment ça. Là, il n'y a plus de limite.
Tu connais James Sansor ?
Non.
C'est un peintre ostendais. C'est des masques.
D'accord.
Des maçons, tu vois. J'ai pensé à cette dimension. Non, mais... quand tu piges plus rien, et puis avec les trônes très rouges.
Oui,
ça,
c'est ça. Ah, mais c'est un cauchemar. C'était un cauchemar.
Les et frics, quoi, aussi.
Frics.
Frics à mort.
Frics et Harry Cruz. Et le week-end d'après, c'est avec un catcheur qui. Avec sa nana, là, qui vole ma peau, quoi. Enfin, c'était dingue. C'était complètement dingue. C'était, oui, des vraies tentatives de destruction. Et en même temps, ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça a été un peu un pivot. Ce que je raconte, d'un seul coup, le nœud familial, bah, ça m'a permis de mettre un grand coup de pied dedans et Dieu sait que j'aime mes parents et j'aime mon frère et je suis très proche de ma famille. Mais ça a été un moment où j'ai eu besoin et j'ai réalisé beaucoup de choses et j'ai mis un grand coup de pied, comme je dis, dans le disque dur familial et ça m'a fait un bien fou, ça m'a libéré de plein de choses, quoi.
Donc ta mère a du sang rom.
Absolument. Ouais.
Tu vas en Roumanie?
J'y suis allée, ouais. J'ai été rencontrer ma famille deux fois, ouais. Extraordinaire.
Et donc tu joues le jeu, tu bois des cognacs à 9h du matin.
Ah ouais. Ah oui, non mais on a. Enfin, quand je suis allée là-bas, je me suis rendu compte à quel point on avait perdu ici en tout, en humanité, en hospitalité. Je suis arrivée à Cluj, parce que c'est à Cluj-Napoca qu'est ma famille. J'ai été accueillie, mais comme une reine, alors que. Mes vieilles tantes, elles ont, 75 ans, hein, mais sauf qu'elles ont vécu toute leur vie dans une pièce dont elles n'ont jamais déménagé. Donc c'est une vie dans 20 mètres carrés. Et là-dedans, elle fait des gâteaux incroyables, des plats incroyables, elle vous reçoit et c'est la fête. Et ça, c'est une sacrée leçon. Hein. Sacrée leçon.
Dans ce sens-là, le livre est un peu comme un conte, comme un voyage initiatique.
C'est ça.
Tu vas te réconcilier avec ta mère.
Voilà, absolument.
C'est une quête de l'essence féminine.
C'est ça, il y a de ça.
Et donc tu vas briser cette espèce de miroir dans lequel tu te regardais à travers ton père.
Oui.
Et tu vas prendre le parti de ta mère.
Voilà. Oui, c'est ça, il y a... Enfin, pas que le parti, parce que ma mère, elle est très ambiguë. Hein. Enfin, tous les couples sont... Voilà, chaque... En tout cas, moi, mes parents sont pas simples. Je ne sais pas s'il y a des parents simples ou des couples simples. Mais ils ont un contrat très particulier. Je les remercie maintenant parce que ça m'a appris la liberté et que chacun a son contrat, en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je dirais que... je prends pas le parti de ma mère parce que je la trouve quand même maso dans sa façon de vivre l'amour et que ça m'a jamais intéressée. Mais disons que je la vois comme femme et pas comme mère. D'un seul coup, je vois la femme et ça nous rapproche, bien sûr. D'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe, effectivement, une reconnaissance féminine qui est assez belle, ouais, et qui est nouvelle.
Et tu n'en parles pas dans ton livre, mais tu t'es intéressé aussi à Calamity Jane.
Oui, j'ai fait un album. Un album sur Calamity Jane. En fait, c'était un atelier de radiophonique de France Culture qui avait proposé à Alain de faire quelque chose. Et lui, il n'avait pas d'idée. Et moi, j'avais déjà travaillé en amont sur les lettres qu'elle avait écrites à sa fille, lettres à sa fille de Calamity Jane. Et j'avais trouvé ça bouleversant, etc. Et j'avais écrit toute une série de chansons. Et donc on a fait une lecture et ces chansons. Et c'est devenu un disque. Et je trouve que c'est un personnage extraordinaire.
Ce que tu vois, c'est une femme qui voulait travailler.
C'est
une
ça.
Une femme qui veut émanciper les femmes.
Oui.
T'as pas du tout l'image romantique.
Mais non, parce que d'ailleurs, les gens disent oh, elle a existé, elle a pas existé. Monsieur, elle a complètement existé, Calamity Jane. Oui, mais c'était une dingue. C'était... Non, c'est pas une dingue. C'est une femme qui s'habillait en homme parce que pour travailler dans l'Ouest américain à cette époque-là, il fallait être un homme. Donc la dada, elle s'est habillée en homme pour bosser, en fait. Et tout ça, c'est assez bouleversant. C'est une femme étonnante de liberté à son époque. C'est incroyable ce qu'elle a vécu. Que vivre dans le désert là-bas, accoucher d'une petite fille toute seule. Enfin, c'est des trucs complètement délirants.
Et bon, tu c'est un petit paragraphe sur tes goûts. Donc, tu aimes les olives, les câpres, les anchois, les agrumes, les écorces d'orange confites, le chocolat très noir.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme...
J'aimais bien, comme c'est un livre fragmenté comme ça, j'aimais bien aussi l'histoire de l'interview comme ça, qui revient régulièrement. Donc, il y a régulièrement une page où il y a une question... Comme c'est un portrait en mouvement, aborder toutes ces questions sur l'amour, sur tout ça, ça me faisait parler de moi forcément beaucoup. Donc, c'est devenu ce portrait en mouvement. J'ai mis ce sous-titre parce que ça m'était assez évident. Et du coup, j'ai rajouté toutes ces choses-là. Je me disais, qu'est-ce qu'on a envie de savoir sur les gens? Qu'est-ce qu'ils mangent? Et c'est ce qu'on lit aussi dans les magazines. C'est des choses qu'on aime bien savoir.
Oui, tout à fait.
Donc, j'ai rajouté des petites choses comme ça. Effectivement, j'aime beaucoup les choses méditerranéennes comme ça. En fait, c'est des choses assez fortes. Hein, les câpres, les olives, le chocolat noir. C'est presque... Pour moi, en tout cas, c'est presque une même famille d'aliments, quoi. Ouais.
Mais c'est parce que je viens du Nord. Donc, pour me défaire de mes habitudes alimentaires, ça a pris beaucoup de temps.
Ah oui. Moi aussi, je viens du Nord.
Oui, justement, on vient du même endroit. Ouais. Mais pour sortir du beurre, pareil.
Ah oui.
De plus vif que dans l'huile d'olive,
ouais.
Ça m'a pris une vie.
Ah oui. Je comprends. Ouais, moi, je suis passée à l'huile d'olive depuis un moment.
Moi aussi.
Ouais. Ouais.
Mais j'exagère, ça m'a pris une demi-vie, disons.
Mais oui, je comprends. C'est vraiment d'autres habitudes culturelles, hein. Rien à voir. Ouais.
J'avais une copine qui était venue me voir avec des viennoiseries de Bruxelles, là,
ouais.
Par exemple. C'était immangeable, c'était absolument inouï.
Parce que c'était trop beurré, trop sucré.
Ouais. Enfin, c'est toute une civilisation, tu sais.
Ah mais c'est sûr, le Nord, c'est...
Les premières fois que je suis rentré, je suis parti disons en Suisse, et après je suis venu à Paris. Puis quand je rentrais à Bruxelles, j'avais l'impression qu'à Bruxelles... À Paris, il y avait une librairie, à Bruxelles, il y avait un traiteur.
Oui, c'est ça.
Avec des choses, de la viande avec de la mayonnaise dedans.
Oui, c'est ça. Des cannibales.
Des crevettes avec de la mayonnaise dedans. Des croquettes au fromage.
Des croquettes de fromage, des croquettes de crevettes.
Oui, des choses toujours très grasses. Très...
Ah oui. La Belgique, c'est ça, oui.
Donc oui, c'est donc un portrait de femme en mouvement. C'est très d'époque, c'est très... Tu es porté aussi par un mouvement général d'émancipation.
Oui, enfin, je me sens pas très en accord d'ailleurs.
Ah hein. Oui, non, c'est pas féministe. Enfin, dans
si, c'est féministe, mais à ma façon.
Oui, c'est pas du tout idéologue, c'est pas caricatural.
Non, puis moi je suis pas contre les hommes, j'aime les hommes. Ça reste le livre d'une femme qui aime les hommes et qui recherche le bon, mais qui aime les hommes. Donc, après, je suis féministe dans le sens où travail égal, salaire égal, même droit. Enfin, je trouve, au sens important du terme, je suis féministe. Après, sexuellement, j'aime les hommes.
Je repense à cette histoire de Calamity James. Avec Bachon, quand vous étiez à Londres, vous achetiez des disques de country et puis vous écoutiez de la country.
Ouais.
Et c'est un goût pour le western, qui regardait des films.
Tout ça, tout en fait. Bon, la musique country, c'est pas forcément le western, mais c'est quand même un sens. C'est une musique folklorique liée à la nature, aux grands espaces, à une certaine vie à la campagne, qui est assez. Assez réconfortante, souvent assez belle. Il y a des très très beaux disques de country, des grands artistes. Et c'est vrai que c'est une musique. Enfin, moi je connaissais pas du tout. C'est vraiment Alain qui m'a ouvert à la country. Hein. Je connaissais pas. Je connaissais un peu Johnny Cash et puis basta. Hein.
J'ai pensé la même chose que
ça. C'est ça. Mais moi, il m'a fait connaître plein de choses. Et ça a été des très beaux voyages, la country. Et après, le western, bien sûr. Alors, le cinéma, c'est quelque chose qui nous liait, hein, tous les deux. Moi, je suis une grande cinéphile, Alain aussi. Et c'est vrai que les westerns, c'est fantastique. J'adore toujours ça, d'ailleurs. J'adore aller voir un vieux western. Un bon John Ford, et ça repart. Ah oui.
Et tu disais que tu faisais du théâtre.
Je fais du théâtre, ouais. Alors, à partir de janvier, je fais un solo qui s'appelle « Je ne suis pas narcissique ». qui est...
On n'en sort pas.
Oui, exactement. Qui est un spectacle que j'avais fait à Avignon il y a un an et demi. Et qui est un texte uniquement composé de phrases d'actrices trouvées dans la presse. Donc c'est une espèce de personnage choral, comme ça, d'actrice un peu monstrueuse, avec ses côtés les plus fragiles, les plus drôles, les plus fantaisistes.
Tu es seule en
plus
scène.
Atroces. Ouais, je suis seule en scène, c'est à la scène parisienne à partir du 11 janvier. Et je m'éclate. J'adore ce spectacle. On ne sait jamais qui a dit quoi, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que c'est que cette actrice nourrie des paroles des magazines, ventriloquée comme ça par la parole des magazines féminins qui nous pourrit la vie aussi. Hein, et voilà. C'est ça.
Tu peux donner un exemple de trois phrases pour la sonorité que ça a validée
J'ai eu un accident de bouche. Je ne fais les choses qu'à 100%. Par exemple. Voilà.
Combien de temps ça dure, tu dis ?
1h10. Et ouais, c'est un spectacle que j'aime beaucoup. Donc, je suis très contente de le reprendre. Voilà. Il y a ça.
Et côté musique
Je prépare quelque chose. Je prépare un nouvel album. J'espère enregistrer au printemps. Donc, plutôt orienté. Jazz, mais à ma façon, un peu bizarre. Il y aura des cuivres, parce que j'ai jamais travaillé avec des cuivres. Donc je vais un peu sur ce terrain-là, on va voir.
J'ai vu la Scopitone, j'ai regardé sur
ouais.
YouTube. C'est quoi Scopitone?
Alors Scopitone is not dead, c'est mon ami David Vallée, qui est un mec extra, qui vient du Nord aussi. Et lui, il a lancé ses Scopitone, c'est-à-dire qu'il fait des clips... super, il est malin comme un singe, il a toujours plein d'atouts dans sa manche et il propose de faire des clips pas chers. Maintenant il y a même des majors hein, qui s'adressent à David pour des clips de groupe et voilà, une journée il arrive avec sa petite caméra clac clac son iPhone pour le son et hop on enregistre et puis après il fait ses petits effets chez lui. Et puis, il nous pond à un clip qui est super. Moi, j'en ai fait plein avec David. Et là, c'est... Bah voilà, c'est très bien qu'on parle de lui. Ça me fait plaisir parce que c'est quelqu'un de... On a une vraie fidélité. On a fait plein de choses ensemble. Et c'est quelqu'un de super. Très inventif, très créatif. Qui se débrouille aussi en toute indépendance. Qui est courageux et déterminé. C'est vraiment un mec bien.
Qui c'est qu'on a oublié? Alors qu'est-ce qu'on a oublié?
Ah, on arrive
vers la fin.
Dans le livre, ouais, qu'est-ce qu'on a oublié? De qui Non, bah non. Je sais pas. Je sais pas, non. Ce que je peux dire, c'est que je viens de rencontrer donc, ce cavalier blanc.
Oui.
Ce qui est marrant, c'est que pendant toute l'écriture du livre, je me disais, bon, bah, je finirai ce livre quand j'aurai rencontré cet homme. Parce que... Et ça me fatiguait, hein. Ça a été long à écrire. Hein. J'ai mis 5-6 ans à écrire ce livre, avec des grands blancs entre des reprises. Bon, c'était lourd, quoi. Et en même temps, ça me tenait. Je sais pas, j'avais besoin de... Ouais, il y avait quelque chose qui m'intéressait de... d'essayer de comprendre ce qui se passait là dans cette matière vivante. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que cet homme n'arrivant pas, j'ai terminé vraiment ce livre sur ce paysage que je trouve, ouais, que je trouve à la fin et qui est le mien. Et puis à ce moment-là, arrive cet homme, maintenant que le livre est fait, l'homme est arrivé. Et c'est le premier et le seul à être venu dans mon paysage. Donc c'est marrant, comme quoi...
Et quand tu dis que tu as mis 5-6 ans pour écrire ce livre, tu as travaillé comme un sculpteur, tu as enlevé beaucoup de matière.
C'est ça, il y a des...
Et
je réorganisais aussi, parce que la construction du bouquin, ça paraît fluide, mais c'est compliqué en fait. Elle est assez compliquée, et pour que ça circule bien d'une partie à l'autre, tout en retombant sur ses pattes, il y a eu un peu de gamberge comme ça. Bizarrement, ça s'est fait assez simplement, parce que je pense qu'il y a... Enfin, moi, dans tout ce que je fais, ça se passe d'une façon aussi assez inconsciente et avec le temps. D'un seul coup, par exemple, je pouvais laisser de côté ce texte pendant, je sais pas, 10 mois, 1 an, hein, et reprendre Et d'un seul coup, c'était évident que telle partie allait là, telle partie allait là, papam pam, je réécrivais un truc. Et tout s'emboîtait comme ça. Mais il fallait du temps de digestion entre chaque reprise du texte.
Ouais. C'est sec à l'os, c'est souvent mot, point, mot.
Oui,
point.
Ah, mais de toute manière, en général, quand je relis, je dégraisse. Déjà que je ne mets pas beaucoup de gras dans ma façon d'écrire, même dans mes chansons, c'est pareil. Mais en relisant, c'est encore plus, quoi. Je dégraisse, j'aime bien être à l'os. Ouais.
Parce que tu privilégies, c'est l'énergie, quoi.
Voilà, c'est ça. Je veux rester à une espèce
le
de,
rythme.
De. Un rythme et puis une essence comme ça de la vie.
L'essentiel.
Ouais, l'essentiel, ouais. Si je pouvais écrire 100 mots, je le ferais.
Chantonner.
Ouais, ouais, je sais pas. Oui, je trouve que c'est toujours trop bavard. C'est terrible. C'est terrible. Quand j'écris, je trouve ça toujours trop bavard. Et à un moment donné, on est bien obligé de mettre un sujet, un verbe, un complément, mais presque c'est trop. Enfin, c'est marrant.
T'es une grosse lectrice aussi?
Ouais, je lis beaucoup, ouais. Plein de choses très différentes. Depuis quelques années. Depuis la mort d'Alain, je ne lis plus du tout de fiction. J'y arrive plus. Donc je lis énormément d'autobiographies. Ça m'intéresse beaucoup. Plus que des biographies. Comment quelqu'un se raconte, justement, ça m'intéresse. Je lis beaucoup d'essais, beaucoup de correspondances, beaucoup de journaux. Les journaux intimes m'intéressent beaucoup.
Qu'est-ce que tu as lu bien, très très bien ces derniers temps?
J'ai une passion pour Charles Julliez. Bon, c'est pas très nouveau, hein, mais j'aime beaucoup.
C'est quoi? C'est il va voir Bram Van Velde?
Ouais, avec l'essai sur Bram, ça c'est extraordinaire. Conversation avec Bram Van Velde, c'est pour moi un grand livre sur l'art, quoi, sur le geste artistique, ça c'est assez fantastique. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai lu? Non, mais par exemple, en ce moment, je suis dans les Upanishads indiennes, vous voyez, donc ça, c'est des textes...
Ça se lit,
textes...
alors, ça marche.
Ouais, c'est intéressant. Après, il ne faut pas lire ça du début à la fin, c'est un pavé énorme, mais il faut lire un chapitre par-ci, un chapitre par-là, et ça, c'est assez passionnant. Depuis quelques temps, ça, je ne faisais pas ça avant, j'ai toujours plein de livres en chantier. Je lis plein de livres en même temps. Avant, je ne faisais pas ça.
On zappe.
Ouais, mais j'aime bien passer d'un truc à l'autre, j'aime beaucoup. Donc, je suis dans les Upanishads, je suis dans des entretiens de John Cage, que j'adore. Qu'est-ce que je lis d'autre en ce moment? Non, j'ai acheté le dernier Quignard parce que j'aime beaucoup Quignard. Mais c'est vrai que je ne lis plus du tout d'histoire. Je lis du vrai ou de la pensée.
Voilà. Je comprends. Bon, ouais. Si c'est aussi un phénomène ambiant, on s'intéresse à la vie.
Certainement. Ouais, certainement. Ça m'intéresse plus. Puis la vie est dingue. C'est ce que je dis aussi dans Jachère. C'est quand même 11 ans où, a priori, j'ai rien vécu. Sauf qu'en fait, je vis plein de trucs. La vie est folle. On rencontre des gens complètement barges. Les gens sont perchés. Enfin, c'est passionnant, la vie, en fait.
Ça, les gens, les autres, bien sûr.
C'est passionnant. Et voilà, d'un seul coup, il y a plein de fictions qui paraissent bien plates. Voilà. Moi c'est vrai que le décès d'Alain, ça m'a...
Réel,
ouais. Ouais, ça m'a réveillée à ça, quoi. Je me suis dit, waouh, la vie, c'est dingue. Et puis ça passe vite, et puis il faut être attentif, et il faut tout garder, il faut tout se souvenir de tout. C'est trop intéressant.
Et donc, tu ouvres le livre avec une histoire de pierre,
Les pierres précieuses.
Les pierres précieuses, ouais. C'est quoi les pierres précieuses?
Ah, mais j'aime beaucoup les pierres précieuses. En fait, l'idée que ce soit... J'aime beaucoup les pierres précieuses parce que c'est le comble de la nature et de la culture. C'est-à-dire que c'est un morceau de montagne, un morceau de caillou. Même le diamant, c'est un morceau de caillou. Et parce qu'on le taille, ça devient cette chose extraordinaire, chère, précieuse. Et donc, voilà, de la nature brute, on passe à quelque chose d'ultra sophistiqué et raffiné. Et je trouve que cet écart est magnifique, est magique. Je trouve que c'est le meilleur de la nature, c'est le meilleur de la culture. Et j'aime bien, en tout cas, j'aime bien croire aux énergies des pierres. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien d'avoir un petit bout de montagne sur moi.
Le mot énergie te résumerait assez bien.
Oui, mais d'ailleurs, je pense de plus en plus que la vie, ce ne sont que des énergies. Et je travaille beaucoup les énergies. Je ne fais pas de yoga, mais je fais du pranayama, qui est du souffle. Et ça ne travaille que l'énergie. Et je trouve ça passionnant. Je pense vraiment que la vie ne sont que des énergies. Quand on a des bonnes énergies, qu'on projette des bonnes énergies, il se passe des choses assez belles. Même chose à l'inverse. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a de mauvaises énergies, on le sent tout de suite. Si on est attentif, hein, si on est ouvert à ça, si on a envie de vivre comme ça. Moi, je suis très attentive à ça. Et il y a des endroits où je ne vais pas aller, des gens où je ne vais pas approcher. Et après, il y a des gens déguisés aussi. Mais quand même, je trouve que... Enfin, en tout cas, moi, plus je vieillis, plus je suis perméable à ça. Et ça m'intéresse.
Ouais. Tu te lèves donc toujours tôt le matin.
Ouais.
Et pour le théâtre, là, t'as besoin de bosser, tout ça.
Oui, là, beaucoup. On ne travaille pas le matin très tôt pour le théâtre, ouais, mais c'est vrai que je suis une lève tôt. Ouais, c'est vraiment naturel. Bon, après, maintenant, comme je suis amoureuse et que je vis une nouvelle histoire, je redécouvre la grasse matinée, mais qui est très agréable d'ailleurs, je suis très heureuse. Mais c'est vrai que ma nature fait que je suis plutôt matinale. Ouais. J'aime me lever tôt le matin. J'adore les heures du matin. Tout est possible le matin. J'aime beaucoup ça. Ouais.
Tu vis à Barbès ?
Je vis à Barbès.
Mmh. Quartier très énergique.
Très énergique. Ah, ça, oui.
Fourmilière,
ouais. Ah ouais. Avec ses charmes, j'aime bien.
Ouais, quand on voyait Tati, là, depuis le métro aérien, on a cette impression de vie intense.
Mais oui, d'ailleurs, s'ils enlèvent ce signe Tati, ces quatre lettres roses au bout du boulevard Barbès, c'est presque comme la Tour Eiffel. S'ils enlèvent ça, on va être très très malheureux. c'est un monument, quoi. Ouais.
C'est un endroit qui tient bien le coup sur le côté populaire.
Ah ouais, ah oui, oui. Ah bah ça ne change pas. Il y avait un article dans l'Ibé ou dans Le Monde, sur Barbès, et il racontait que depuis le Moyen-Âge, ça a toujours été un endroit de business, de trafic, et ça n'a jamais changé. Quelles que soient les époques, les politiques, ça a toujours été un endroit comme ça. C'est marrant. Vous voyez, sur les énergies des lieux.
Ah oui, alors c'est...
C'est étrange, c'est intéressant.
Tu penses énergie.
Oui, tout de suite, je me dis, c'est étrange. C'est un lieu qui est comme ça, une fourmilière. C'est quand même étrange que civilisation après civilisation, époque après époque, ça reste un lieu comme ça.
C'est tellurique, quoi. C'est...
Ouais, ça, je trouve ça troublant. Hein. C'est troublant. Ouais.
Là, on est dans le 13e, et puis le 13e avait un passé industriel intense,
ouais,
qui a totalement disparu.
Oui, c'est ça. Ouais.
Changé les énergies.
Bien sûr, non, mais.
Parce que là, la place où on est, c'est que ça partait à Rungis. C'est ici que les lignes arrivaient.
Ouais. D'accord.
Il y avait un train. Il y avait un petit train qui partait.
D'accord. Ah oui. Oh, bah, Barbès, la rue des Poissonniers, où c'est là que c'est par là qu'arrivait le poisson. Eh oui. Et... Normandie. Non.
Écoute, c'est bon, hein, merci.
Bah super, merci beaucoup, Yves. Super.